L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. La semaine dernière, nous sommes partis à la découverte des différentes contrées de production du whisky. Aujourd'hui, nous allons revenir à un sujet d'une brûlante actualité qui concerne tout un chacun. La multiplication des événements climatiques extrêmes, sécheresses, tempêtes aux conséquences catastrophiques, ne cesse de remettre en question l'action anthropique sur la planète. Les experts du climat tirent la sonnette d'alarme pour attirer notre attention sur le fait que les années qui viennent seront décisives avant que tout changement ne devienne irréversible. Vous l'avez peut-être deviné, nous allons parler aujourd'hui des questions liées au climat et plus particulièrement les grandes conférences portant sur le changement climatique. Les négociations climatiques, combien de divisions? C'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Les négociations climatiques en quelques dates. Le 2 décembre, s'est ouverte à Katowice en Pologne la COP24. Qu'est-ce qu'une COP? Il s'agit de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette convention cadre a été adoptée lors du sommet de la Terre en 1992 à Rio de Janeiro au Brésil. Elle est entrée en vigueur en mars 1994. Cette démarche, portée par l'Organisation des Nations Unies, vise à mieux cerner le phénomène du changement climatique et à trouver les solutions afin d'en limiter les effets. Elle reconnaît le principe de précaution, le principe des responsabilités communes mais différenciées et le principe du droit au développement. La limite de cette convention cadre est qu'elle ne comporte aucun pouvoir contraignant pouvant obliger les États à agir contre les effets négatifs du changement climatique. Le sommet de la Terre à Rio, qui s'est tenu du 3 au 14 juin 1992, a été l'un des plus grands rassemblements de chefs d'État et de gouvernement. 1500 ONG étaient également représentées. Ce sommet est considéré comme le premier ayant placé la question de la dégradation du climat dans le champ du débat politique. Par la suite, un programme baptisé Action 21 a été adopté. Il s'agissait d'une série de recommandations portant sur la gestion durable des forêts, la lutte contre la désertification ou l'élimination des produits toxiques. En 1992, les pays qui étaient les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, les GES, avaient pris l'engagement de stabiliser leurs émissions à l'horizon de l'an 2000. Le 11 décembre 1997, un traité international ayant pour objectif de réduire les gaz à effet de serre a été adopté. Il est plus connu sous le nom de Protocole de Kyoto. L'objectif initial du protocole était de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique, c'est-à-dire liées à l'action de l'homme, d'au moins 5% par rapport au niveau de 1990. Pour pouvoir entrer en vigueur, le protocole devait être ratifié par 55 pays, ce qui est chose faite en février 2005. Un point important à retenir. Le protocole de Kyoto a été signé sous la présidence de Bill Clinton, mais n'a pas été ratifié par le Sénat américain. Le protocole prévoyait différents mécanismes auxquels les pays les plus industrialisés avaient accès afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces mécanismes, les permis d'émission permettant de vendre ou d'acheter des droits à émettre des gaz à effet de serre entre pays industrialisés afin d'améliorer les systèmes de production les plus polluants. Des pays comme l'Inde, le Brésil, la Chine ou l'Indonésie sont partie prenante du protocole, mais ne sont pas concernées par l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2012, la prolongation du protocole de Kyoto a été actée. Toutefois, la Russie, le Japon, le Canada n'ont pas souhaité poursuivre leurs efforts de réduction d'émissions tant qu'un cadre similaire ne s'applique pas à la Chine et aux États-Unis. Parmi les grands moments de ces sommets climatiques, on peut rappeler le sommet de la Terre qui se tient à Johannesburg en 2002. C'est à cette occasion que Jacques Chirac prononce cette phrase devenue célèbre : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La phrase complète se poursuivant par « La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril et nous sommes tous responsables. » Revenons maintenant sur la COP21, la conférence de Paris sur les changements climatiques en 2015. Du 30 novembre au 12 décembre 2015, s'est tenue à Paris la 21e conférence des parties. Les négociations de Paris ont jeté les bases d'un nouvel accord international qui doit être applicable à tous les pays à partir de 2020. Il doit définir les objectifs différents pour les pays les plus industrialisés et les pays émergents. Cet accord se veut ambitieux en permettant de limiter réellement les effets du changement climatique. La COP21 a réuni les délégations de 195 États, mais également des organisations représentant la société civile, ONG, syndicats, organisations de protection de l'environnement, peuples autochtones, collectivités locales. Le texte final de l'accord de Paris est présenté le 12 décembre 2015. Il prévoit de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés, voire de tendre vers un objectif de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Cet accord contient des engagements de la part de chaque pays pour réduire leurs gaz à effet de serre, des règles pour contrôler les efforts entrepris, des solutions pour financer durablement la lutte et l'adaptation au changement climatique dans les pays émergents, comme avec la mise en place d'un fonds vert pour le climat. Il est également prévu que soit réalisé un agenda qui recense les initiatives des acteurs non gouvernementaux. L'accord de Paris affirme le rôle des acteurs locaux dans la lutte contre le changement climatique. Parallèlement à la COP21, se tient le sommet des élus locaux pour le climat, qui débouche sur une déclaration où ces mêmes élus s'engagent à aller vers 100% d'énergie renouvelable et à une réduction des émissions carbone des villes de 80% d'ici 2050. L'accord de Paris entre en vigueur le 4 novembre 2016, grâce notamment à la ratification des grands pays émetteurs tels que le Canada, la Chine, les États-Unis ou l'Inde. Aujourd'hui, cet accord est présenté comme historique, même s'il reste encore des imperfections. Parlons maintenant de la COP24 qui se tient actuellement à Katowice en Pologne. La COP24 est un moment fort dans le cycle des négociations pour le climat. Il s'agit de définir les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris et de dresser un premier bilan de l'action collective des pays signataires. Parmi les règles de mise en œuvre qui figurent au menu des négociations, on trouve les informations que les pays doivent communiquer sur leur programme en matière d'action climatique, le suivi de leurs engagements de réduction d'émissions et leur contribution à l'effort de solidarité internationale. L'autre enjeu de la COP est de rehausser le niveau d'engagement des États, puisque le tendanciel actuel pourrait entraîner une hausse de 3 degrés à l'horizon 2100. Le contexte politique actuel est peu favorable à la prise en compte des questions climatiques. Le mouvement climato-sceptique a toujours existé, mais il semble aujourd'hui retrouver de la vigueur, car il se trouve appuyé par plusieurs chefs d'État. En effet, Donald Trump et Jair Bolsonaro remettent ouvertement en doute les conclusions alarmistes de la communauté scientifique sur les effets du changement climatique. Outre le fait que cela leur permet d'assurer leur côté réactionnaire, qui est leur fonds de commerce, cela leur permet aussi de justifier leur politique favorable aux énergies fossiles. Lobby des énergies fossiles qui est l'un de leurs plus fervents partisans. Par ailleurs, le choix de la ville de Katowice et de la Pologne est tout sauf heureux. Pays du charbon, le mix énergétique polonais est composé à 80% de charbon. Et à l'horizon 2030, cette part devrait être portée à 60%. Les villes polonaises font partie des villes les plus polluées d'Europe. Ainsi s'achève ce rapide tour d'horizon des conférences sur le climat. De Rio à Katowice, nous avons vu que les négociations climatiques ont trouvé leur place sur la scène diplomatique internationale. Cette place n'est peut-être pas encore suffisante, mais chacun se forgera son opinion. Il reste à espérer que les alertes récurrentes de la communauté scientifique réussissent à mettre en mouvement la classe politique pour prendre des mesures face à la dégradation du climat. En attendant la fin de la COP24 en Pologne, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale. Once you are a seafolk and you sailed upon the sea. Across your